la 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Bonjour, je m'appelle Ilonka. Au début du confinement, j'avais pas d'emploi. Ça fait un moment que je cherche du boulot. Je pense depuis janvier, j'avais fait un peu de taf alimentaire pendant quelques temps avant. Je cherche du travail dans le secteur socioculturel. Je bossais en MJC avant, du coup je suis médiatrice culturelle. Ça change pas énormément sur mes activités, même si, à vrai dire... le fait de ne pas sortir, c'est quand même compliqué, de ne pas avoir de monde.
Je m'appelle Loïc. Au moment de l'annonce des mesures de confinement, j'avais un travail d'enseignant. Et concrètement, on a fermé les établissements scolaires.
Donc moi, je m'appelle Mathieu. Je suis enseignant dans l'éducation nationale, en histoire-géo, en breton.
Je m'appelle Catherine. Je suis coordinatrice enfance. Je travaille dans une asso qui accueille des publics, donc enfants, adultes, asso. Après, les conséquences pour les bénéficiaires, c'est que on est fermé. Donc, on n'accueille plus personne sur cette période.
Alors, moi, je m'appelle Adrien. Donc, au moment de l'annonce des mesures de confinement, je n'avais pas d'emploi. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas travaillé, de manière épisodique en tout cas.
Le confinement, ça a commencé assez rapidement. Il n'y a pas eu de, enfin, il y a eu pas de tergiversation pour les enseignants, pour les élèves, tout ça. Ça a été très vite. On nous a très vite dit, à partir du jeudi, il y avait une annonce. Le vendredi, on nous a dit que lundi, c'était fermé. Et puis, c'était fait. Mais ça a été fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas prévenu plus que ça et on nous a juste donné des ordres de, il va falloir continuer. N'importe comment, mais il va falloir continuer.
Donc la première semaine de fermeture des écoles et donc du périscolaire, donc ça a été un peu rock'n'roll. Les écoles sont fermées, sauf pour accueillir les enfants de soignants. Et donc, des situations comme ça, il faut être super réactif, tout bouge très vite, on a des infos, des consignes qui arrivent tout le temps, ça évolue, toutes les demi-journées. Donc, c'était assez stressant, avec pas mal de pression, avec des avis qui se confrontent. Donc, il a fallu faire vachement de trucs assez vite. J'ai passé beaucoup de temps à gérer cette crise. Je faisais le lien entre tous les interlocuteurs, la ville, les instituts, les ATSEM, les collègues, la DCS, bureaux. Enfin, c'était un peu sport.
J'arrive à m'occuper, j'en profite aussi pour reprendre des activités artistiques, etc. J'ai pas trop de mal à m'occuper tout seul, donc ça me change pas tant que ça, si ce n'est effectivement tout le côté social. Mais qu'on a remplacé par des Skype, beaucoup d'apéros Skype, beaucoup de petits déjeuners en Skype, etc. Beaucoup de contacts Skype, qui permettent d'entretenir du lien, et puis notamment avec des gens qui sont loin normalement, géographiquement. Mais comme là, la distance n'a plus d'importance, on va aller contacter des gens qui sont vachement plus loin de d'habitude et qu'on n'aurait pas contacté en se disant on se verra quand on pourra se déplacer, mais voilà.
Alors maintenant, ça s'est calmé, les choses se sont un peu mises en place. Donc des fois, je vais sur place, pas souvent. Je suis pas mal sur transmettre des infos aux collègues, aux familles. Et puis sinon, je fais du travail administratif. Alors j'espère que, parce qu'on est au moins confiné encore pendant 15 jours, ça on sait, voire plus. Donc j'espère qu'au bout d'un moment, j'aurai du temps pour travailler un peu sur le fond. Alors c'est quand même assez bizarre hein, de plus voir personne, de plus voir les enfants. Bon, c'est comme ça, c'est bizarre.
Bah oui, effectivement, on voit plus beaucoup de gens, on voit quand même les voisins. Ça nous a même permis de rencontrer une nouvelle voisine qui s'est installée dans le village en allant promener les chiens. Mais c'est vrai qu'on voit plus les autres, je vois plus mes collègues, je vois plus mes élèves, ce qui est un peu bizarre.
Moi, je faisais du montage vidéo. Et là, j'essaye de me remettre à faire ça, mais c'était pas évident déjà avant le confinement et avant la crise du coronavirus. Il y avait une activité dans l'audiovisuel qui était un peu au ralenti. Et là, avec le coronavirus, c'est carrément arrêté. Et je me demande même si après le coronavirus, il y aura encore des boîtes de production qui auront survécu à cet épisode.
Et on dépend beaucoup des financements publics. On a une convention avec la ville. Et il y a une partie de financement qui est fixe et une autre partie qui est en fonction des effectifs. Donc, il y aura sûrement une baisse, hein, mais on n'a pas trop d'infos pour l'instant. Et puis, d'un autre côté, il y a une grande partie de l'équipe qui est en chômage partiel ou en arrêt pour garde d'enfants. Donc, on va aussi recevoir des indemnités d'État. Donc, voilà. Je pense que ça devrait s'équilibrer. Pour le moment, en tout cas, voilà, on manque d'infos.
Les répercussions économiques, sociales, etc., en fait, me donnent peu d'espoir sur retrouver un boulot dans ma branche. Déjà que c'était compliqué, je pense que ça va être vraiment très, très, très dur, là. Et ça me questionne énormément sur éventuellement me former. Alors, il faut savoir que j'ai un master en gestion de projets culturels, mais qui ne me permet pas de trouver obligatoirement du boulot concrètement. Et donc, je cherche à éventuellement me former dans quelque chose de plus manuel, une sorte de boulot qui te donne un travail à la clé, un travail salarié à la clé. Et éventuellement dans l'artisanat, mais bon, c'est des questions qui sont en cours. Voilà, donc comme quoi mon métier est devenu vachement moins important dans ma tête depuis le confinement et je me dis qu'éventuellement, bosser, gagner un peu plus de sous et comme ça prendre le temps de m'investir de manière bénévole dans les structures auxquelles je crois, ce serait pas mal.
Le travail que je fais en tant qu'enseignant, oui, je continue de manière plus éparse. Quand je ne vois pas mes élèves dans des heures bien fixées, c'est de manière plus éparse, mais je continue à préparer mes cours, à proposer des corrections, etc. Alors, je ne sais pas comment on va faire dans la suite, mais je trouve ça assez intéressant. Là, c'est un moment de réflexion aussi sur la pédagogie, comment faire dans cette période-là un peu particulière. Et du coup, ça questionne aussi notre pédagogie plus largement. Comment mettre en place des pédagogies actives quand on est loin et du coup... Pourquoi on ne le fait pas quand c'est plus simple et quand on voit nos élèves? Parce que la nécessité de voir les élèves, de travailler avec les élèves est d'autant plus prégnante aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, ça, c'est un moment pour moi que je trouve assez intéressant pour réfléchir, de prendre son temps, parce que là on est jusqu'au mois de mai au moins, donc de prendre son temps pour y réfléchir et puis de proposer, d'essayer, de se tromper, pourquoi pas, mais essayer des choses, voir avec les élèves ce qui arrive et permettre aussi d'en discuter avec les élèves sur comment ils le vivent et qu'est-ce qui se passe et comment eux ils voient les choses. Et du coup, c'est une façon aussi de renouveler notre pédagogie.
La crise va remettre sur le devant de la scène l'utilité des enseignants et des enseignantes. Rien que dans leur fonction la plus basique, qui est de s'occuper des enfants âgés de 3 à 17 ans, mettons. Et bah oui, qui est-ce qui socialise ce travail d'éducation? Et bah c'est le ministère de l'Éducation nationale et tous les gens qui y travaillent. Quelle est la situation des enfants dans les familles en ce moment quand je leur envoie du travail en mathématiques? D'une famille à l'autre, on a des situations totalement inégalitaires. On sait bien que dans certaines familles, les enfants seront très bien suivis par les parents, qui vont lire avec eux le travail que vont envoyer les enseignants, qui vont tout mettre à disposition en termes de matériel, d'ordinateur, d'imprimante, d'accès à Internet, etc. Les parents joueront là le rôle un peu de prof à la maison, où ils seront derrière leurs enfants, à leur donner des conseils, à les aider un peu, mais pas trop, vous voyez, vraiment des sortes d'enseignants parfaits à la disposition de l'élève. Et donc pour ces élèves-là, en gros, ça continuera de bien fonctionner. Mais il y a évidemment plein d'autres élèves pour qui les conditions vont complètement changer, avec des familles mises en tension avec la situation, que les parents soient eux-mêmes des soignants, que les parents travaillent ou se demandent s'ils doivent travailler parce que la situation au travail n'est pas claire pour énormément de salariés en France en ce moment. Et donc, ce nouveau stress qui va peser sur les familles va aussi peser sur les enfants, sur les femmes aussi, mais aussi sur les élèves et sur les enfants. Et donc, je pense que les familles sont en ce moment des lieux de violence exacerbés. La famille est de toute façon un lieu de conflit, un lieu de violence habituellement. Enfin, pas que de conflit et pas que de violence, mais disons que la famille n'est pas forcément un havre de paix. Et donc, sur mon travail d'enseignant, moi, je me suis donc contenté d'un travail, d'une sorte de charge de travail minimale pour les élèves, c'est-à-dire des choses très simples à faire, des exercices du livre à faire. Par exemple, pour quand tu veux d'ailleurs, tu as les exercices 3, 4 et 5, page 170 à faire. Et voilà, quelque chose de très simple qui ne nécessite pas de gros matériel technique ou technologique. Il me semble que la question donc, de l'égalité à l'école en fait, se repose à de nouveaux frais. On sait que l'école est un système inégalitaire, et donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on va faire de l'égalité maintenant, mais c'est est-ce qu'on va accentuer l'inégalité ou est-ce qu'on va plutôt essayer de freiner cette inégalité. Et il me semble que là, la balle est quand même dans le camp des enseignants. Je ne suis par ailleurs pas du tout favorable au fait d'abandonner, pas d'abandonner, ce n'est pas le mot, de ne pas envoyer de travail aux élèves. Je pense que le fait de maintenir un contact avec les élèves, ça leur permet de ne pas être tourné que vers la famille. Et le fait d'avoir un truc à faire, et là c'est un travail scolaire, mais le fait d'avoir un truc à faire qui est hors de la maison, hors de la famille, je pense que c'est très intéressant, voilà, d'avoir une autre sociabilité que celle de la famille, fût-elle sous forme d'internet, de mail au professeur. Il me semble que c'est intéressant de maintenir ça à grande échelle, à l'échelle du pays. Et donc, je pense que les enseignants doivent le faire. Ils doivent faire cette sorte de ce truc qu'on a appelé continuité pédagogique, mais en se l'appropriant et en le définissant eux-mêmes.
Je n'avais pas de bureau chez moi, ni de chambre d'amis. C'est pas très grand, donc c'est vraiment l'envahissement physique et aussi psychologique du travail. Déjà qu'avant, j'y pensais quand même assez souvent, j'avais le travail assez souvent en tête. Là, je le vois. Je le vois parce qu'il y a l'ordi, les classeurs, les documents, le cachet de l'association, mes petits post-it sur le mur, enfin voilà, c'est un peu envahissant. J'ai modifié donc mon espace perso pour donner une place supplémentaire à mon travail. Sinon, au niveau de la santé, ça va. Au bout de 11 jours de confinement, je commence quand même à m'ennuyer. Je manque un peu de motivation aussi pour travailler. J'aime vraiment, moi, sortir de chez moi, changer d'environnement, séquencer mes journées, voir mes collègues, les enfants, les adhérents. Enfin, donc là, c'est tout se mélange. Il y a un côté pratique, évidemment, parce que, je sais pas, je vais faire une petite lessive, je vais me faire à manger. Mais en contrepartie, je m'arrête jamais. Je vais regarder mon mail vachement plus souvent. L'ordi est là, il est allumé, il est 8h, je vais regarder. Alors qu'avant, je ne faisais pas, quoi. Et puis, les collègues me manquent. Hein. Ça, je dois dire que la construction collective, c'est vraiment quelque chose que moi, j'apprécie. Et là, je me retrouve pas mal seule, même si j'ai une réunion tous les jours avec un collègue, mais c'est quand même pas du tout pareil. Après, au niveau financier, moi, je travaille, donc il n'y a pas vraiment de changement. Et puis, mes collègues, ça ne changera pas non plus, puisqu'il y a un maintien de salaire, que ce soit pour les gens qui sont en arrêt ou aussi pour ceux qui sont en chômage partiel.
Ma situation financière ne va pas changer du tout, parce que je suis enseignant, donc fonctionnaire, et donc je ne suis pas mis au chômage. Cela d'ailleurs ne dépend pas du tout du fait que j'envoie des cours ou pas. Aucun fonctionnaire de ce pays ne sera au chômage. Simplement parce que les fonctionnaires, d'État en particulier, fonctionnaires hospitaliers également, ne connaissent pas le chômage. Ça n'existe pas, c'est une catégorie qui n'existe pas pour eux. Pour qu'un fonctionnaire d'État, pour qu'un enseignant, un pompier, un gendarme se retrouve au chômage, il faut qu'il fasse une faute d'une extrême gravité, ce qui n'arrive quasiment jamais.
J'ai aucun danger sur mon emploi, j'ai aucun danger sur mon salaire, ce qui est encore plus, qui est beaucoup plus important pour tout le monde. Hein. J'ai aucun danger pour ça, puisque j'ai un statut et que ça tombe de toute manière, que je sois devant mes élèves, ou devant mon ordinateur, ou en réunion, ou devant des copies, ou en train de corriger, ou en train de préparer. Voilà, ça tombe à chaque fois. Et donc je souhaite à tout le monde, pas forcément d'être fonctionnaire, mais d'avoir ce statut où, qui pour moi est basé sur la confiance. Et c'est vers là où je pense qu'il faut que tout le monde aille, où en fait on surveille pas les gens, mais on leur fait confiance. Et le fait est que je continue de travailler tous les jours, quel que soit le jour, c'est moi qui choisis, mais je continue sans arrêt de travailler, de faire ce qu'il faut faire et ce que j'aime faire aussi. Ma situation financière, comme j'ai dit, elle n'a pas changé vraiment, enfin, à part ma compagne qui, elle, est indépendante, qui est dans le paramédical et qui a dû arrêter aussi son activité et qui n'a pour l'instant aucune nouvelle sur ce qu'elle pourrait faire. Donc pour l'instant, c'est zéro, pas de rentrée d'argent. Et voilà, on n'est pas trop inquiet parce que du coup le fait de vivre à la maison, ça nous a permis d'économiser énormément sur un poste de dépense qui est très très fort chez nous, ce qui est l'essence, puisqu'on vit un peu à l'écart, donc on a énormément besoin d'essence rien que pour aller travailler. Donc on verra, on passera ça, je pense, notamment parce que j'ai aussi un salaire qui tombe tous les mois.
Par contre, sur la situation financière, c'est vrai que le confinement faisant, on a moins de dépenses parce qu'on sort pas, parce qu'on a, enfin, il y a rien à acheter, etc. Enfin, on achète juste de quoi se nourrir. Mais par contre, effectivement, moi, ça fait depuis septembre, en gros, on vit sur mes réserves et sur ce que nous donne la CAF. Et du coup, ça diminue petit à petit et c'est sûr que quelque part, c'est un peu préoccupant.
Et après, sur les sous, j'économise grâce au confinement. Alors, je suis en couple, je n'ai pas d'enfants et j'ai une famille qui me soutient moralement, financièrement. J'ai des amis qui sont là. Pour moi, on va dire que je ne suis pas dans une situation très, très... je suis pas dans les pires, mais je touche le RSA. Alors, moi, j'ai très peur que la situation actuelle augmente les demandeurs d'emploi, les personnes au chômage, etc., vu les réformes qui sont déjà passées au niveau du chômage et le nombre de contrôleurs. À mon avis, ça va être vraiment de plus en plus compliqué et que beaucoup de personnes vont se retrouver... dans la merde, je sais pas comment le dire autrement. Déjà, moi, je me sens vachement plus contrôlée au niveau de la CAF. Et comme je dis, j'ai pas l'angoisse de devoir nourrir mes gosses, etc. Et ben oui, je pense que ça va être vachement plus complexe pour beaucoup de personnes et que, et en plus de toute la question. Toute la fragilisation de la population, puisqu'on va peut-être perdre des proches et des proches, ce qui peut être encore plus fragilisant au niveau moral. Les activités du moment qui ont le plus de sens à mes yeux, recréer du lien social auprès de mes proches, faire un Skype par jour avec ma famille, etc. Je pense que vraiment là, je suis sur des... du contact de proximité.
Dis donc, tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors...
la, 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 la,
la 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 la
des activités, ce qui peut être considéré par le monde libéral comme des activités. Bah, je travaille. Moi, je travaille quand je fais la vaisselle, quand je fais à manger. Je travaille quand je fais du ménage. Je travaille quand je vais. Par exemple, j'ai pris là l'occasion, enfin, du confinement pour pendant une heure par jour lire les mémoires de mon grand-père à ma grand-mère qui est très vieille et qui vient d'avoir 95 ans. Et donc, bah voilà, j'ai l'impression que c'est aussi du travail. Je travaille aussi quand je me livre à différentes activités artistiques comme la peinture, je fais du rap aussi, j'écris, voilà. Donc, je travaille aussi en tant que militant. Bah là, par exemple, en répondant à cette enquête, je pense que je travaille, je contribue à créer une partie de savoir qu'on met en commun, etc. Voilà. Donc, ça, je pense que... Enfin, je me pose pas trop de questions sur mon utilité sociale. Après, c'est vrai qu'en dehors de cette crise de confinement, oui, il y a des moments où on se dit, parce que moi j'ai beaucoup d'activités bénévoles qui ne sont pas rémunérées, et ou des activités artistiques, etc. Et du coup, je me dis, mais en fait, cette société est incapable de valoriser ce que je suis capable de faire, moi, et n'arrive à valoriser que des activités. Donc moi, je fais du montage vidéo. Mais quand je gagne ma vie en tant que monteur vidéo, bah, je fais de la communication pour des entreprises qui sont nuisibles, qui vont vous inonder de pubs dans des bannières insupportables, qui vont vous pousser à la consommation. Et donc moi, je mets en valeur ce capital quand je vais faire... Quand je vais faire un montage pour par exemple un séminaire de telle ou telle entreprise, et du coup j'ai l'impression plus de nuire quand je travaille que je soi-disant travaille que quand je me livre à des activités bénévoles pour différentes associations.
J'avoue que depuis le confinement, le fait d'être bénévole, c'est un travail. Si je dis que j'ai envie de m'investir, pour l'instant j'ai fait peu de choses, donc je me sens plutôt inutile. Je prends beaucoup de temps pour moi personnellement et me laisse malheureusement attraper par des choses du quotidien, enfin des choses que je ne faisais pas avant, type regarder une série par exemple. J'ai pas les outils pour sortir obligatoirement voir les structures qu'ont besoin. J'aimerais le faire, je le fais pas obligatoirement, voilà.
Est-ce que mon emploi a une utilité sociale ? Bah, j'espère que oui. Y a une partie de mon travail qui tourne autour des différentes réglementations et des applications. Une autre partie qui est autour de la gestion d'équipe et un volet un peu organisationnel, planning, recrutement, tout ça. J'essaye de le faire d'une manière à ce que tout ce truc-là, là, c'est pour vraiment faciliter le travail sur le terrain. Et puis, ce pourquoi on agit, en fait, pourquoi on travaille avec les enfants, avec les instituts et tout, les parents. Et puis, il y a une autre partie de mon travail qui est plutôt un travail de réflexion. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que l'on veut faire ? Réfléchir à ce que l'on veut faire avec les enfants, pourquoi, quels sont les effets. Et puis je suis très attachée à l'éducation populaire, comment prend-on conscience du monde qui nous entoure, qu'on sorte de la place à laquelle on nous a assigné, qu'on puisse agir sur le monde qui nous entoure. Après, il y a certaines missions, moi, qui ne m'intéressent pas franchement. Rendre des comptes sur les effectifs, tout ça, bon là, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est comme ça, c'est à faire, hein, mais c'est assez chiant à faire. Et puis après, c'est les appels à projets. Les appels à projets, c'est toujours assez... c'est vachement chronophage. Pour des fois, pas beaucoup d'argent. Et puis c'est aussi... donc c'est une perte de temps, en fait. On demande des sous pour faire notre métier, donc ça, c'est quand même assez ridicule. Et puis aussi, on passe un temps fou à faire ça. Donc quand on ne fait pas ça, ben, on ne fait pas nos vraies missions. Et puis, c'est aussi qu'on dépend, du coup, aussi des, une fois de plus, des orientations politiques, parce que les appels à projets, c'est pas nous qui définissons les objectifs, bien sûr. Donc, il faut qu'on faut rentrer dans les cases.
Est-ce que le travail n'est qu'une question de salaire ? Pour moi, non, mais c'était déjà évident avant. Tout simplement parce que tout ce que j'aimerais faire et tout ce dont que je trouve important et sont des activités non salariées, même ce que je pourrais faire dans mon métier en général, je peux le faire sans être salarié, mais je considère que c'est du travail. Enfin, donc voilà. Après, non, regarder une série et papoter avec mes potes et ma famille, je considère pas que c'est du travail personnellement.
Autrement, en dehors de mon emploi, oui, je travaille comme je travaille tout le temps, autour de ma maison, dans ma maison, retaper la maison, le jardin, le bois, etc. Là où ça pêche un peu plus, c'est toute ma fonction militante, en fait, où là, c'est un peu plus difficile, mais c'est pareil, je trouve ça c'est un peu intéressant. Ça, là, pendant 2 semaines, ça, il a fallu un peu cogiter, réfléchir, et du coup, voilà, c'est des nouvelles... des nouveaux défis.
Les activités qui ont le plus de sens en ce moment, c'est mon travail militant avec les copains de Réseau Salariat et aussi sur les réseaux sociaux. Je regarde pas mal de vidéos, d'interviews, conférences et je diffuse les informations qui me semblent importantes. Est-ce que ce que je fais, c'est du travail ? Oui, bien sûr. Je suis convaincue de son utilité sociale. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un travail rémunéré que ce n'est pas du travail et que l'on ne produit rien. J'ai tapé sur Internet la définition du mot travail et je suis tombée sur ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Et je trouve que ce que je produis est vachement utile. Je m'informe, je transmets, je participe à un groupe de réflexion et de production collective avec une visée de transformation sociale. Je trouve que ça a quand même vachement, vachement de sens. Et puis, c'est très enthousiasmant.
Donc, il faut qu'on se fasse passer le mot sur le fait qu'on est en train de travailler. Il faut absolument qu'on arrête avec ces images qui peuvent circuler de « Ah, regardez, oui, je fais la guerre, mais je suis dans mon canapé, je vais me servir une bière dans mon frigo. » Enfin, vous voyez, tout ce qui nous montre en train de ne pas travailler, tout ce qui fait dans le cliché de « je suis pas en train de travailler »,« oh, c'est trop bien, c'est les vacances, je suis pas en train de travailler », il faut vraiment ne... Ça, c'est vraiment contre-productif, ça, c'est vraiment faire le jeu du capital. Il faut absolument dire que l'on travaille. Et même si on fait une activité qui habituellement fait partie de nos loisirs. Je sais pas, je suis en train de faire de la déco pour la maison. Oui, c'est pas ce que je fais. Ça faisait longtemps que je voulais avoir du temps pour faire cette déco dans la maison. Je suis bien content de pouvoir la faire. C'est un loisir quasiment. Mais non, c'est du travail. Tu es en train de travailler parce que tu n'es pas sorti. T'es pas en train de te rendre dans un lieu où tu vas contaminer les gens, où tu vas mettre en danger les gens. Donc, tu es en train de travailler. Et ce travail, c'est peut-être faire de la déco, mais ça, il n'y a pas de souci. On est collectivement en train de surmonter une crise. Nous méritons tous nos salaires. Aucun salaire ne doit être attaqué sous quelque forme que ce soit. Que ce soit le salaire net, évidemment, les cotisations sociales, mais aussi les prises de congés abusives en ce moment, mais aussi le fait de travailler gratuitement après. Quand bien même plusieurs confédérations syndicales et plusieurs organisations patronales, main dans la main avec le gouvernement, auraient dit que « allez, on enterre l'âge de guerre pendant la période », c'est faux, ça n'existe pas. Et on le voit bien aujourd'hui quand Muriel Pénicaud propose de passer à 60 heures la durée hebdo du travail. Elle est dans la lutte de classe. Quand on ne recrute pas suffisamment de soignants, quand on ne finance toujours pas avec un plan massif de financement de l'hôpital public, on est dans la lutte de classe. Quand la porte-parole du gouvernement dit que les profs ne travaillent pas, elle est dans la lutte de classe, même si elle fait un mea culpa après, l'idée est passée. Donc la lutte de classe ne s'arrête pas. Donc je suis un travailleur en ce moment, même confiné.
On vit un moment quand même très particulier et j'espère qu'il y a un changement de société qui est possible. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a des prises de conscience au niveau social, environnemental. On voit bien qu'en période de confinement, les inégalités sociales apparaissent de façon vraiment criante. Même si elles existaient déjà, évidemment, mais C'est comme si elles sont rendues visibles. Et en tout cas, j'ai l'impression que les gens prennent conscience de ça, en tout cas.
Depuis le confinement, j'avoue que je suis encore plus attentive aux questions vraiment sociales. Donc, par exemple, la situation des personnes sans logement, enfin, et des personnes sans papier, des personnes qui se retrouvent encore plus fragilisées avec des structures qui ont beaucoup moins de possibilités de venir en aide. À ce niveau-là, ça va être l'hécatombe. Il y a les personnes dans les prisons aussi. Et ça me donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de participer dans des structures d'aide aux sans-abri, par exemple, mais ça peut être pour d'autres choses, enfin, au niveau du planning familial pour les femmes, enfin, les violences faites aux femmes, parce que je pense que le confinement permet à certains hommes d'agir avec beaucoup plus de violence et que ça ne se voit pas. Surtout que je pense qu'il y a une consommation d'alcool vachement plus élevée due au confinement.
Malgré les annonces de notre gouvernement pour assurer qu'aucune PME, pas la moindre petite PME, ne ferait faillite, j'ai tendance à pas croire. Ce gouvernement, je pense que si, il y aura des répercussions économiques, qu'il y aura des faillites et donc du chômage en plus. La production est en partie arrêtée et que les gens sont obligés de voir que l'hôpital, les services publics, les boulots les plus essentiels à la vie de la société sont aussi les boulots qui sont les moins rémunérés. Je pense qu'il y a des gens qui étaient précarisés et qui vont être très 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 précarisés et dans une situation intenable. Des populations qui n'étaient pas forcément touchées par toutes les mesures du gouvernement successives, libérales, etc., et qui vont finir par l'être, à être touchées dans leur vie quotidienne. Et donc on peut s'attendre à un mouvement social ou à des mouvements sociaux de grande ampleur. Et c'est mondialisé et que ça touche tout le monde, du coup.
Et je pense que c'est un moment à prendre et c'est un moment où faut venir taper fort. Par contre, en s'organisant pour proposer et mettre en place de nouvelles manières de faire fonctionner le système économique social en France et au-delà.
Bon, un autre système carrément, parce que là il faut changer de système, il ne faut pas faire des petites mesurettes, réaménager le capitalisme. Je pense que c'est la preuve qu'il faut en sortir et qu'il faut qu'on puisse reprendre du pouvoir d'agir sur l'économie qui est sans cesse, on le voit aujourd'hui même avec les gouvernements, qui est sans cesse mis en avant par rapport aux travailleurs eux-mêmes et à leur santé, etc. Enfin, ça sera toujours privilégié, enfin, l'économie sera toujours privilégiée par rapport à ceux qui travaillent et qui créent la valeur. L'urgence, c'est de créer des institutions qui remplacent celles du capitalisme, à savoir la propriété lucrative, le marché du travail où, moi j'en ai marre de devoir prouver, de devoir m'insérer sur ce marché où je suis sans cesse remis en cause. On ne me respecte pas, on ne me reconnaît pas comme travailleur et c'est toujours, toujours désagréable. Le financement par dette, je pense que c'est une institution qui en plus pousse à toujours plus parce que comme on prête de l'argent et qu'il y a un intérêt, cet intérêt en fait représente ce que le travailleur va devoir aller chercher dans l'économie réelle en plus et donc créer cette valeur en plus. Et donc, nous pousse aussi à faire grossir un système de manière exponentielle et qui, écologiquement, va causer des problèmes, enfin, cause déjà des problèmes, alors que le choix de ce qui est financé n'appartient que aux banques, et donc qui sont dans leur logique de pensée libérale et capitaliste. Et du coup, à ce compte-là, bah, on va jamais faire de transition écologique, on va jamais aller vers une agriculture biologique qui produirait pour tout le monde. Enfin, il y a plein de chantiers qu'il faudrait mettre en place, que on sait tous qu'il faudrait les mettre en place, mais qui n'auront pas lieu si on ne remet pas en cause ces institutions.
Pour revenir sur la militance, je pense que plus que jamais, il faut utiliser la violence. Enfin, perso, j'ai envie de sortir et brûler. Bon, j'habite en Bretagne, mais brûler le Parlement et aller faire flipper les gouvernants qui ont une vraie impression d'être intouchables, mais... Enfin, faut leur montrer que c'est pas le cas.
Non, je voulais savoir, tout l'immeuble il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais.
La 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 la.